Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième balado intitulé « Concevoir une stratégie de gestion des ressources humaines ». Notre invitée, c'est Sophie Fortin. Connue des milieux d'affaires et d'éducation, Sophie a notamment travaillé chez Domtar en tant que directrice des ressources humaines, mais également chez Agropur à titre de vice-président ressources humaines et à la Standard Life où elle était vice-présidente ressources humaines senior. Standard Life qui sera d'ailleurs rachetée par Manuvie. Sophie est également connue comme étant administratrice de société. Elle siège notamment sur le comité stratégique ressources humaines de la STM. On bénéficiera de cette expertise avancée en planification stratégique pour essayer de comprendre un petit peu mieux cet exercice-là et de savoir aussi quel est le rôle des ressources humaines. On demandera aussi à Sophie si c'est nécessaire d'avoir un plan stratégique RH détaillé et comment les ressources humaines peuvent devenir un acteur plus stratégique dans les organisations. Compte tenu de sa vaste expérience internationale et nord-américaine dans des milieux financiers, pharmaceutiques et manufacturiers, on essaiera un petit peu de comprendre si les ressources humaines sont différentes dans ces secteurs et organisations-là. On profitera de son expertise d'administratrice de société pour lui poser la question simple, qu'est-ce que c'est finalement un administrateur? On essaiera aussi de voir, avec des exemples concrets, quels peuvent être les enjeux ressources humaines rencontrés par ces sociétés et essayer de les distinguer un peu plus des enjeux d'affaires. Comme on parle assez peu des OBNL, on profitera aussi du fait que Sophie a été notamment présidente auprès des Y des femmes de Montréal pour comprendre un petit peu les enjeux ressources humaines que rencontrent ces organisations sans but lucratif. Qui est Sophie Fortin?
Bon, c'est intéressant parce que, bon, je pense qu'on peut tous aller voir le profil sur LinkedIn, mais je vous dirais, je pense en partant que je suis une passionnée de la profession en ressources humaines. Bon, ça fait quand même plusieurs années, plus de 30, 35 ans que je travaille dans le domaine et j'ai toujours gardé la passion. J'ai eu la chance de travailler pour des grandes entreprises, des entreprises qui ont œuvré au Canada, aux États-Unis, en Europe. Et donc, j'ai pu voir les différents styles de leadership, les différentes cultures. Mais avec le point commun, c'est qu'on ne peut réaliser une stratégie d'entreprise que grâce aux gens. Je reste encore aujourd'hui surprise qu'il y a encore des organisations qui n'ont pas nécessairement réalisé ça. Alors oui, j'ai œuvré dans tous les domaines des ressources humaines, que ce soit les négociations de conventions collectives, d'usines, jusqu'au ce qu'on appelle là, le C-suite, alors travailler puis avec des présidents et les coacher. Alors j'ai fait tous les modules des ressources humaines. J'ai travaillé aussi au niveau des opérations, donc j'ai géré un service de service à la clientèle dans le secteur manufacturier à travers l'Amérique du Nord. J'ai géré un bureau de projet aussi. Évidemment, j'ai fait des acquisitions, j'ai fait des ventes. Mon dernier poste était avec la compagnie Standard Life qu'on a vendue à Manuvie, donc une très, très grosse transaction. Et j'ai une formation qui est une formation et en psychologie et en affaires avec mon MBA. Donc, j'ai appris avec le temps. J'ai toujours dit au début de ma carrière, on me disait « Oh, t'as pas de bac à ressources humaines ». Et j'ai toujours dit le fait d'avoir un MBA, le fait de comprendre ce que c'est un bilan financier, de pouvoir parler avec le VP Finance, a pour moi été un atout. Et on oublie souvent... On pense que parce qu'on est en ressources humaines, on parle juste de formation, mais pour les gens en ressources humaines, il est essentiel là, de comprendre ce que c'est une business puis comprendre tous les enjeux d'affaires. Et aujourd'hui, après la vente de Standard Life, pour moi, c'était une belle occasion de tourner la page et de sortir du milieu corporatif, de faire un petit peu plus de bénévolat. Et j'ai eu un appel du HEC, j'ai toujours dit que ça a été un cadeau pour moi. Et j'enseigne donc au niveau du certificat, donc des gens qui travaillent, qui retournent au travail. Et donc, c'est un échange qui est très enrichissant pour moi parce que je continue d'apprendre. J'apprends toutes sortes de choses qui se passent dans les entreprises. Je pense partager aussi ma passion et surtout mon expérience en ressources humaines. Et je travaille aussi avec l'école des dirigeants.
Parfait, merci beaucoup. Vous avez développé une expertise ayant trait à la planification stratégique des organisations. Pourquoi est-ce si important de planifier sa stratégie d'entreprise?
C'est intéressant parce que, vous savez, souvent aujourd'hui, puis on a tendance à dire, bon, ben, on va planifier, on va faire notre planification d'affaires, puis en ressources humaines, ben, on va planifier ce qu'on veut faire. Et en ressources humaines, nos besoins devraient être déterminés par les besoins d'affaires. La Banque nationale, la Banque de Montréal, Ivanhoé Cambridge peut mettre sur pied le plus beau programme de développement des cadres. Ça ne veut pas dire parce que ça fonctionne dans cette entreprise-là que ça va fonctionner dans notre entreprise. Et donc, avant de commencer à dire oh, qu'est-ce qu'on va faire cette année au cours des 5 prochaines années sur un plan de développement de nos ressources humaines, il est important de se poser la question, l'entreprise s'en va où? Qu'est-ce que l'entreprise a besoin? Et une fois qu'on connaît bien les enjeux de l'entreprise, les produits que l'entreprise veut vendre, les services qu'elle veut lancer, les nouveaux services, les compétiteurs, comment elle se situe dans son environnement économique, là, on peut ensuite poser la question, on va avoir besoin de qui, de quel profil pour être capable de rencontrer ces défis-là. Et là, l'exercice de planification ressources humaines commence. Et c'est important que ça soit fait main en main avec le milieu des affaires, avec le milieu des affaires de l'entreprise, parce que mettre en place, par exemple, un programme de formation, un programme de rémunération, un programme de développement, on est les experts, mais la réalisation va passer par les gestionnaires. Elle va passer par les chefs de département, va passer par les VP. Puis ce qu'on veut, c'est que ces gens-là disent « oui, j'en ai besoin ». Alors, c'est pour ça, pour moi, l'exercice de planification des ressources humaines est clé, mais il est clé de le faire main dans la main avec la planification de l'entreprise aussi. Oui, bien écoutez, si on est en ressources humaines, j'ai toujours, on est probablement le secteur de l'entreprise qui doit comprendre les différents services. Et je dirais, c'est souvent, c'est le maillon faible là, que nous avons les gens en ressources humaines, c'est de ne pas avoir assez d'intérêt dans ce qui se passe au niveau de l'entreprise. C'est peut-être pas excitant de lire un bilan financier, mais c'est important. C'est important d'être capable d'établir cette discussion-là avec le VP Finance. Et puis, je dis toujours, vous savez, si le président, il a son VP Finance, son VP Ressources humaines, si les deux s'entendent bien, c'est une organisation qui va réussir. Et donc, pour arriver à la table de direction, il faut avoir une curiosité financière, il faut avoir une curiosité de produit, de marketing, pour être capable ensuite d'avoir une conversation, puis j'oserais même dire une crédibilité. Et il faut cet intérêt-là. Et la personne ressources humaines devrait être capable de comprendre et de parler de ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Être capable de dire, après ça, vous savez, juste un petit exemple, on s'en va recruter quelqu'un, un expert en service à la clientèle. Pour être capable de bien faire mon travail comme recruteur, il faut que je connaisse à fond mon service à la clientèle. Que je sache quelle personne va bien cadrer dans la culture de ce service-là. Alors, qu'on parle d'un VP ressources humaines ou qu'on parle d'un partenaire d'affaires qui dessert un département seulement, son lien avec ce département-là, la compréhension qu'il a dans le département, elle est clé. Elle est clé de façon à ce qu'il apporte autre chose que simplement son expertise ressources humaines. Et c'est souvent le maillon faible des gens ressources humaines. Il faut avoir cette curiosité. Puis je vous dirais, c'est peut-être, j'ai toujours l'avantage que j'ai eu de ne pas avoir de formation académique en ressources humaines. C'était mon intérêt pour le milieu des affaires, mon intérêt pour la business. Et ça, je pense, a toujours été un atout que j'ai et que j'ai découvert sur le tard, en fait, que waouh, c'est ce qui me permet de rentrer dans le bureau du VP Finance puis d'y parler.
C'est intéressant ce que vous dites, Sophie Fortin, parce que dans les autres balados qu'on a pu avoir avec d'autres experts, ce qu'ils disaient souvent, c'est que parfois, le manque de crédibilité des ressources humaines faisait aussi en sorte que tout le monde pouvait parler ressources humaines. Mais que vous disiez que vous alliez dans le bureau du VP Finance, que vous étiez capable d'avoir une discussion finance, ben ça démontre aussi que les ressources humaines peuvent aussi avoir ce type de discussion.
Tout à fait. Tout à fait. Et je vous dirais, ma plus grande frustration est d'entendre des gens qui disent Ah, ben, tu sais, on sait bien les ressources humaines. On est en 2021, puis on l'entend encore. Oh, les ressources humaines, nous autres, là, c'est le programme de formation. Et ça, là, ça me dresse les cheveux sur la tête. Parce que c'est pas vrai. N'importe quel programme de formation ne cadre pas dans l'entreprise. Il faut connaître l'organisation. Puis on l'entend souvent, ah, ben mon ami à la Banque nationale, ils ont tel programme, comment ça fait qu'on n'a pas ça? Parce que nous, on n'en a pas besoin. Il faut être capable de répondre. Puis pour répondre, ben il faut connaître l'organisation.
Tout à fait. Et vous avez travaillé, ce qui est intéressant dans votre parcours aussi, d'abord votre expertise en planification stratégique, mais vous avez surtout travaillé pour des grandes organisations et des plus petites. Mais quand on s'intéresse aux grandes organisations, souvent, le facteur humain est quand même un poste assez important dans les bilans comptables. Et donc, ça m'amène vers la question 4. Il arrive que des entreprises continuent à développer un plan stratégique ressources humaines très détaillé, calqué ou non sur le plan stratégique de l'entreprise. Vous avez été vice-présidente, vous avez été sur plusieurs conseils. Quelles sont vos préconisations à ce sujet-là?
Je pense que, et je vous dirais, j'ai travaillé certainement, probablement, la dernière organisation, Standard Life, était probablement une organisation où on a mis beaucoup, beaucoup de l'avant toute la notion de ressources humaines, c'est-à-dire la ressource humaine, pas le service, mais la personne, où on a fait un changement de culture presque de 180 degrés, et la partie ressources humaines faisait partie intégrante du plan d'affaires. On avait un plan d'affaires avec donc 5 priorités. Puis dans ça, il y avait une priorité qui était un enjeu ressources humaines. Tout comme on avait un enjeu de service, un enjeu technologique, on avait un enjeu ressources humaines. Et donc, ça ne devient pas un enjeu du service de ressources humaines, mais ça devient un enjeu de l'entreprise. Et c'est la seule façon de réussir. On est donc partenaires ensemble et avec les gens de marketing et avec les gens de développement de produits ou de développement en recherche et développement, peu importe. Et ça devient un enjeu et un défi de l'organisation que l'on va atteindre ensemble. Et pour moi, c'est vraiment ça le partenariat quand on parle de planification stratégique. Moi, j'ai déjà géré, puis les gens disent « Ah oui, mais t'es en ressources humaines. » Moi, j'ai géré le processus de planification stratégique. Pour l'entreprise, pas pour le service des ressources humaines. Je l'ai fait parce que, bon, c'est un processus, parce que je comprenais l'entreprise et pas parce que j'étais une experte en ressources humaines, j'étais pas juste dans ce rôle-là. Et donc, encore une fois, les ressources humaines, on les retrouve dans tous les secteurs de l'entreprise. Chaque VP devrait comprendre son enjeu ressources humaines. Et nous sommes des experts dans la matière. Vous savez, je dis toujours, chaque personne a une responsabilité de gérer son budget. On fait notre budget ensemble. C'est pas le VP ressources humaines qui va venir gérer mon budget. Je suis responsable d'atteindre mes chiffres. C'est la même chose. On met en place un plan ressources humaines que l'entreprise endosse et chaque gestionnaire est responsable de le réaliser.
J'aime beaucoup là où vous amenez parce qu'on a discuté avec plusieurs experts, la littérature, les étudiants vont être exposés à beaucoup d'articles sur ce plan-là. Et certains disent d'ailleurs que parfois le défaut des ressources humaines, c'est d'y aller un peu en tiroir. C'est-à-dire qu'ils vont développer eux-mêmes leurs documents en silo. Ils vont dire, ah tiens, tu es responsable de la formation, toi, tu es responsable de la rémunération. Chacun va amener un petit peu en tiroir ces espèces de listes de supermarchés.
Oui,
et ils vont en faire un plan, alors que parfois, c'est complètement déconnecté de la stratégie de l'entreprise. Et ce que j'entends de votre côté, c'est de dire, non, tout ça doit être arrimé et faire partie finalement de l'enjeu, des enjeux d'affaires.
Tout à fait. J'ai déjà, moi, eu des belles idées de dire, ah, on pourrait faire tel programme, c'est super chouette, wow, nos employés aimaient ça. Mais quand j'en parlais, là, puis avec toute la passion que je peux dégager, je sentais, là, rien au niveau du comité de direction. Puis là, à un moment donné, il faut choisir nos batailles. Hein. Puis, un, il faut avoir du courage. Puis deux, il faut choisir nos batailles. Puis là, je me dis, OK, ça passera pas, mettons-le de côté. J'y reviendrai quand je vais trouver quelque chose où je puisse l'accrocher, un besoin d'affaires, que je puisse l'accrocher, même si je sais que j'ai raison, parce que je vais être toute seule. Alors, vous avez raison. Et je trouve parfois, on va dire, cette année, notre focus est sur la rémunération parce qu'on tire on est un petit peu en arrière par rapport au marché. Fait que remplissons pas tous les tiroirs. Parce que ce sont les gestionnaires qui vont être obligés de réaliser et qui doivent le comprendre aussi, le comprendre des différents défis. Puis vous avez tout à fait raison, tout à fait. arrêtons de remplir les tiroirs parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qui se passe sur le marché aussi. Puis, on a souvent tendance en ressources humaines à être théorique parce qu'on comprend l'impact d'un programme sur les employés, mais parfois, il faut rendre cette théorie-là palpable. Puis, toujours, il faut être capable d'expliquer à notre directeur qui est en usine, là, ça va lui donner quoi à lui, ce programme-là, pour ses 300 syndiqués. Alors, je pense que c'est de retourner à cette réalité-là, sans oublier qu'il faut challenger nos gens. Parce que dire non, c'est la solution, hein, pas de changement, ça a toujours bien marché, on ne fera rien, c'est la solution la plus facile. Fait que je pense que des fois, il faut apprendre à comment challenger les gens, nos gestionnaires.
Parfait, ben merci beaucoup. Et je suis très contente que ce panel d'experts, on puisse le réaliser avec d'autres personnes, individus. Ça nous permet aussi de mettre en perspective certaines choses. Et les éléments que je partage ici, les étudiants vont avoir l'occasion de les entendre aussi à travers les autres appels.
Si ouais. Je peux juste faire une petite Allez-y. Parenthèse.
Oui, avec plaisir.
Que ce soit une petite entreprise ou une grande entreprise, cette approche, je pense qu'elle est la même. La différence, souvent, c'est que les grandes entreprises ont peut-être plus les moyens. On est capable d'aller embaucher des consultants, on peut mettre des beaux programmes en place, etc. Le point commun, c'est croire que cette stratégie GRH que l'on adopte sert l'organisation. Et que ce soit une organisation de 25 employés ou 5 000, cette approche, elle est la même. Je vous dirais le plus grand défi pour les petites et moyennes entreprises, c'est qu'une fois qu'on dit quelque chose, on connaît tous les employés, fait qu'on est capable d'aller les voir et dire « Ce que dit Sophie, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ton boss fait ça? » Fait que c'est pire, là. C'est un plus grand défi pour eux. Vous savez, souvent, dans une grande organisation, si un des VP, il ne croit pas, puis il ne le fait pas, ben moi, comme VP d'un autre département, je peux le faire, puis bon, puis c'est parfait. C'est beaucoup plus difficile pour les PME. Mais en même temps, ils peuvent être beaucoup plus près de leurs gens. Mais l'approche est la même. Notre rôle en ressources humaines est d'aider et de supporter l'entreprise et s'assurer que la ressource qui est la plus importante, qui va réaliser le plan d'affaires, on a les bonnes personnes, le bon endroit au bon moment et qu'on les mobilise. Et surtout dans un contexte comme on vit aujourd'hui. Fait que je voulais juste faire cet aparté-là parce qu'on parle souvent de grandes entreprises, mais les défis sont les mêmes au niveau des PME. Puis moi, je siège sur certains comités là, pour aider les PME. Je dois vous dire que surtout les nouvelles PME, les jeunes présidents, ont ce souci des ressources humaines que je trouve très rafraîchissant.
Merci beaucoup d'ailleurs. On va encore en parler tout à l'heure de la différence entre les grandes et les plus petites organisations. J'aime l'idée que vous amenez à cette nuance. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a beaucoup de PME et parfois dans notre littérature, on est très ciblé sur les grandes organisations. Et donc, c'est bien aussi d'avoir ce regard-là.
Oui. Tout à fait. On a souvent des exemples, comme vous dites, et bon, des vidéos, etc., sur les grandes organisations, sur les organisations américaines. Et j'espère que dans les prochaines années, on va faire des focus sur les plus petites entreprises qui font vraiment de belles choses.
Tout à fait. Et surtout aujourd'hui, dans un monde où on a des petites organisations, on peut citer Shopify qui était très petite et aujourd'hui qui sont cotées en bourse à Toronto en dépassant toutes les grandes organisations. C'était des petites, mais par quoi est-ce qu'on entend petit aujourd'hui? Est-ce que c'est la capitalisation, le nombre d'employés? Ah, ça change énormément aujourd'hui.
Tout à fait.
On regarde la cinquième question qui revient sur la littérature qui indique souvent les difficultés des ressources humaines à être un acteur stratégique dans l'organisation. Est-ce un mythe ou une réalité?
Je pense que c'est ma question préférée, ça. Je vous dirais aujourd'hui, en fait, ça n'a jamais été un mythe. D'accord? Alors, souvent, puis pendant très longtemps, la personne des ressources humaines ne faisait pas partie du comité de direction senior, ne se présentait pas au CA, souvent même n'était pas sur le comité ressources humaines là, qui relève du CA, parce que tout ce qu'on parlait à ce moment-là, c'était de la rémunération, puis c'était à peu près tout. Alors, ça n'a jamais été un mythe, ça a été une réalité. Aujourd'hui, cette situation-là a beaucoup, beaucoup évolué. Où effectivement le bras droit souvent du président va être et sa personne finance et sa personne ressources humaines. En même temps, il y a deux choses. Il y a des organisations et je vous dirais ce qui me choque souvent, c'est qu'on regarde souvent les titres, puis il y a un premier VP finance et il y a un directeur des ressources humaines. Surtout aujourd'hui, nos titres, là, je vous dirais que ça ne coûte rien donner un titre. Fait que ça, je vous dirais, ça me choque un peu. Si on est pour dire les gens ressources humaines est un acteur stratégique, mettez-les sur le conseil de direction, puis donnez-leur le même titre que les autres VP. Bon, alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième, je vous dirais, arrêtons comme personne en ressources humaines d'attendre d'être invité au conseil de direction. Si, pour toutes sortes de raisons, le président n'a pas invité sa personne ressources humaines à être autour de la table, on a notre personne marketing, R&D, technologie, finance, qu'on n'a pas la personne ressources humaines, qu'on le demande. La pire chose qui peut arriver, c'est se faire dire non, mais qu'on le demande parce qu'il est aujourd'hui inacceptable que la personne qui représente le service ressources humaines ne soit pas assise à la table de décision. C'est tout à fait inacceptable. Encore une fois, ça a beaucoup évolué, puis je vous dirais de plus en plus, la personne, elle joue ce rôle-là, mais il y a encore des organisations où il n'y a personne autour de la table. Encore une fois, que ce soit une grande entreprise ou une petite entreprise, ça n'a pas d'importance. Et ça, je trouve ça triste parce qu'à ce moment-là, la réflexion de dire, bon, on a ce nouveau programme à lancer, ce nouveau service, on va informatiser tel groupe de notre organisation, on le fait, puis après ça, on va dire, ah oui, c'est vrai, il y a des personnes qui vont être obligées de réaliser ce défi-là. Oh, bien, on va aller leur parler. Fait que la ressource humaine, qui est le capital principal de l'organisation, bien, vient en dernier. Alors, ça n'a jamais été un mythe, ça a été une réalité, mais je vous dirais de moins en moins. Puis des fois, il faut juste avoir du courage puis dire, hey, moi, je vais être assise là.
Vous avez pris votre place, c'est ce qu'on entend dans les organisations.
Tout à fait. Puis, bon, on m'a jamais dit non. Bon, je vous dirais au début, je suis rentrée et j'avais l'impression que c'était comme un chien dans un jus de quai, là, pas nécessairement voulu ou désiré. Mais c'est à moi, à ce moment-là, de me faire accepter puis de prouver que je suis importante. Mais comme je vous dis, on le voit de moins en moins maintenant.
Enfin, c'est intéressant. Et nos étudiants vont aussi être amenés à visualiser... dans un des cours sur la diversité des témoignages qui remontent il y a 10 ans de Radio-Canada, je vous enverrai la vidéo, qui avait des témoignages de dirigeants. Moi-même, j'ai eu la chance de pouvoir écrire un livre sur cette génération de femmes leaders au Québec qui faisaient partie de cette première génération-là qui accédait à des postes de direction. Et c'est passionnant ce qu'on peut entendre, surtout l'idée de faire sa place plutôt que d'attendre qu'on nous donne une place. Mais on est content aujourd'hui que les choses soient plus faciles.
Oui, puis écoutez, je fais partie de cette génération-là. Je fais partie de la génération, je me souviens de me faire dire déjà, puis je n'aimerais pas l'entreprise, mais par un VP ressources humaines, un premier VP de ressources humaines, que j'étais vraiment là, pas mal bien payée pour une petite madame. Fait que c'est certain que ça donne moins le goût là, de s'imposer, mais je me dis des fois, il faut faire le contraire. Il faut montrer, alors, tu trouves que je suis bien payée, mais tu vas voir, tu vas à un moment donné, tu vas réaliser que je suis peut-être pas assez bien payée pour ce que j'apporte. Fait que oui, mais je vous dirais, il y a eu une très grande évolution et je regarde les nouveaux leaders de cette nouvelle génération, les gens qui ont 30, 40 ans. Je vous dirais, c'est de la musique à mes oreilles de ce que j'entends. La fascination, le focus qu'ils ont sur les gens, sur les personnes de l'organisation. Et peut-être que le défi qu'on a vécu au début, milieu des années 2000 sur la rareté de main-d'œuvre, peut-être que ça a allumé certaines lumières et que ça a fait réaliser des gens qui n'étaient pas là du tout, que wow, c'est vrai que c'est compliqué quand on perd quelqu'un ou quand on n'a personne pour faire tel poste. Alors peut-être que la partie positive de ce défi qu'on a eu il y a quelques années a été d'aider les gens à réaliser que pour avoir le plus beau plan stratégique, à la fin, là, la mise en place de ce plan-là dépend presque entièrement sur les personnes.
Merci de ce témoignage. Et on peut d'ailleurs lire dans votre biographie que vous disposez d'une vaste expérience au sein des sociétés nord-américaines et internationales dans les secteurs financiers, pharmaceutiques ainsi que manufacturiers. Qu'avez-vous appris sur le plan des ressources humaines en naviguant dans ces différents contextes sectoriels et organisationnels?
Je vous dirais, ce que j'ai appris le plus, c'est on peut être dans une même organisation, assis à New York, assis à Montréal, assis à Toronto, puis assis à Paris, avec le même programme, la même direction, la culture, la façon de mettre le même programme en place va changer. L'écoute des gens est différente. La communication est différente. Et je vous dirais, c'est probablement ce que j'ai appris le plus. Les Américains ont une façon de gérer qui est totalement différente que les anglophones de l'Ontario. Puis on se dit, ils parlent la même langue. Pas du tout, pas du tout. J'ai travaillé beaucoup, beaucoup en Grande-Bretagne. La même chose. Et donc, pour moi, ça a développé beaucoup ma notion d'écoute et de me mettre dans la peau de l'autre. Parce qu'on arrive, on dit, moi, je connais, ça fait 30 ans que je travaille en ressources humaines, je connais ça. Puis en fait, non. Alors, ça a été, je vous dirais, le plus grand apprentissage, malgré les outils de communication qu'on a, malgré le fait qu'on peut être en synchrone, on est live, c'est pas grave, la culture est importante. Juste l'accès à la hiérarchie, puis je me permets de donner un exemple avec la France, parce que moi, j'ai beaucoup d'étudiants français, puis puis vous en avez probablement beaucoup aussi. La notion de hiérarchie, elle est très différente en France. Puis pourtant, Paris est une des plus belles villes du monde, les jeunes sont à jour, etc. Mais quand on arrive à la notion de hiérarchie, elle est définie de façon très différente. Au Québec, là, vous rentrez dans le bureau de votre patron, là, puis vous allez dire « Bonjour Ali, comment ça va? » Puis « As-tu deux minutes? » Lorsque moi, lorsque j'allais travailler à Paris, où j'avais des jeunes Français qui travaillaient dans mon équipe de gestion de projet, puis à l'époque, on avait des bureaux, on n'était pas en virtuel, c'était beaucoup plus formel. Et il fallait, je leur dis, vous avez la permission, si vous n'êtes pas d'accord, de me le dire. Dites-moi-le. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce qu'encore, c'est la nouvelle génération, c'est la hiérarchie, on se dit, c'est fini là, les structures formelles. Eh bien non. Même chose en Amérique du Sud. Alors, c'est un long discours là, que je fais, mais pour vous dire que c'est probablement toute cette notion de culture, d'éducation qui reste et qui est différente. Beaucoup plus que, c'est certain, l'industrie pharmaceutique a de l'argent, fait qu'on a plus de moyens de faire des belles choses, puis bon, de faire du beau décor, versus le secteur manufacturier. Mais il reste que derrière tout ça, c'est toute la notion de culture, puis le message, il faut penser à comment on va le passer, et il faut écouter aussi. Je vous dirais, c'est probablement ce que j'ai le plus retenu.
Parfait, merci. Merci beaucoup de ce témoignage. Et vous siégez également sur plusieurs conseils d'administration et comités stratégiques de grandes entreprises québécoises. Bien que stratégique, la gouvernance des organisations est un thème un peu complexe pour nos étudiants. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle d'administratrice de société et nous donner des exemples d'implications que vous avez eues sur le plan des ressources humaines?
Bon, alors c'est pas une question facile, effectivement. En fait, je dis toujours, un conseil d'administration est présent et son rôle est d'assurer, on dit une gouvernance, c'est de s'assurer que dans chacun des activités, des champs, ce qui est fait rencontre le plan stratégique et est fait à l'intérieur d'une certaine éthique professionnelle. Ça, je vous dirais, c'est la théorie, c'est derrière le rôle du conseil d'administration. Il y a des conseils d'administration qui sont beaucoup plus dynamiques où souvent le président ou le directeur général de la société va parfois utiliser ses membres de conseil pour faire du brainstorming parce que le rôle formel du conseil, c'est d'approuver. Mais beaucoup de conseils d'administration, encore une fois, dans les plus petites entreprises ou dans des entreprises plus dynamiques, il va y avoir un certain échange et le président du conseil, le président de l'entreprise, pardon, va utiliser son conseil pour faire du brainstorming, dire est-ce que c'est possible de faire telle chose. Et ça rend la discussion très dynamique. C'est aussi pour ça, puis je vais revenir à votre question, c'est aussi pour ça que souvent, les plus petites entreprises vont mettre sur place ce qu'on appelle un comité consultatif. Donc, il y a beaucoup moins de gouvernance, procès-verbaux à écrire, puis beaucoup moins de fla-fla. et beaucoup plus de temps passé sur des discussions qui est un moment, une opportunité pour le directeur général ou le président de la société de questionner puis d'aller valider certaines choses. Et donc ça, je trouve, c'est relativement nouveau, ces comités consultatifs. Moi, pour être du côté là, du comité, puis externe, je suis super formidable parce que ça me permet, moi, dans mon domaine de ressources humaines, de challenger, de questionner, de dire, est-ce que vous avez testé votre mobilisation? Vous faites des sondages? Est-ce qu'ils sont faits régulièrement? Est-ce que vous avez répondu? Vous faites quoi pour les gens qui s'en vont? C'est quoi votre taux de roulement? Fait que ça me permet de poser plusieurs questions. Puis je vous dirais, c'est beaucoup moins agressif parce que c'est un comité consultatif. Quand on arrive au conseil d'administration, c'est beaucoup de présentation. Donc, moi, comme responsable, comme représentante, là, avec mon chapeau de ressources humaines, mon rôle est beaucoup de questionner. Bon, vous avez mis sur place un sondage. Qu'est-ce que vous avez fait pour y répondre? Mais c'est beaucoup plus de m'assurer qu'ils font les bonnes choses. Au comité ressources humaines, qui est un sous-comité, c'est la même chose. Là, on va répondre spécifiquement des enjeux ressources humaines. Au conseil d'administration, on va répondre beaucoup, beaucoup à des enjeux financiers. C'est très financier. Vous aviez dit que vous alliez avoir un revenu net qui va augmenter de 10 % par rapport à l'année passée. Êtes-vous aligné pour ça, oui ou non? Fait que c'est très, très finance. Le comité ressources humaines est un niveau plus bas, tout comme le comité de vérification, et va vraiment plonger dans des dossiers stratégiques ressources humaines. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. C'est certain qu'il y a une partie de gouvernance. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Le comité ressources humaines va approuver les augmentations de salaire, va approuver les bonus qui sont payés de façon générale. Donc, l'augmentation de la masse, le pot de bonus, mais va approuver les bonus qui sont payés à chacun des exécutifs. D'accord? Et on a vu souvent, au cours des dernières années, là, je n'aimerais pas des entreprises, mais on les a tous vus dans les journaux, des bonus incroyables qui ont été payés à des dirigeants d'entreprise quand 3 mois avant, ils ont fermé des usines. Puis qui n'ont pas rencontré leur chiffre d'affaires. Pour moi, le comité ressources humaines n'a pas fait son travail. Parce que ce qu'ils auraient dû faire, c'est ne pas recommander aucun paiement de bonus au conseil d'administration. Ça, c'est la partie gouvernance. D'accord? Ils n'ont pas fait leur travail. Et c'est ça un exemple de travail bien fait ou pas fait. Et encore une fois, il faut avoir du courage pour dire au président, Monsieur Ali, je recommande que vos exécutifs et vous n'ayez pas de bonus. Ça prend du courage. Mais c'est la bonne chose à faire sur un plan de gouvernance.
Ça a l'air d'être un rôle assez éminemment politique et pas si évident que ça. Finalement, on pensait que c'était des gens qui s'asseyaient à des comités, mais on voit que vous avez beaucoup de pression aussi, surtout lorsque...
Il y a de la pression... Vous avez raison. Bon, il y a de la politique, mais je dis toujours, c'est un rôle de gouvernance et donc il faut aller au-delà de la politique et de faire ce qui est éthique pour l'organisation.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Et je sais que nos étudiants aussi, pas mal de... Je vais reprendre ce que j'allais dire là-dessus. Déjà, ils vont devenir CRH à un moment donné, donc le volet éthique va être important parce que en devenant membre de l'ordre, ils ont aussi un certain nombre d'éléments liés à l'éthique et on va s'en parler tout à l'heure d'ailleurs dans la question 10. L'éthique est souvent sous-estimée, mais c'est un
élément
clé.
Et vous avez raison, Ali, je pense que, vous savez, en ressources humaines, ce que l'on vend, c'est notre crédibilité. C'est notre réputation, rien d'autre. J'ai rien à vous montrer, là. Je fais rien, là. Je n'ai que ma crédibilité, qui prend des années à gagner et qui peut être perdue dans le temps de le dire.
Tout à fait.
Et je reviens au fait, si on pense que quelque chose n'est pas éthique, il faut avoir le courage de le dire. Tout à fait.
Tout à fait. Tout comme l'ordre nous demande de ne pas prendre de mandat si on n'a pas l'expertise, le devoir d'expertise qui est aussi
Tout à
lié
fait.
à notre éthique professionnelle.
Tout à fait.
Vous allez dire, je suis autant mieux placé en étant consultant, parce que parfois on a toutes sortes de consultants aussi, mais ça c'est un élément clé aussi pour être un
Oui.
consultant crédible.
Puis moi, j'ai beaucoup plus de respect pour quelqu'un qui va me dire, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas quoi te répondre, laisse-moi, donne-moi du temps. J'ai beaucoup plus de respect pour cette personne-là, puis je vais lui faire beaucoup plus confiance que quelqu'un qui me dit n'importe quoi simplement pour être capable de répondre, puis avoir l'air meilleur que son voisin, bon, peu importe. Et cette personne-là, à mes yeux, va bâtir et garder sa crédibilité. Parce que sinon, ça se perd comme ça.
Tout à fait. Et l'autre question, c'est à travers différentes études de cas, nos étudiants vont découvrir des organisations qui font face à des enjeux ressources humaines qui impactent les organisations sur le plan des affaires. Un thème récurrent se situe au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre qui vient impacter la capacité des entreprises à poursuivre leur croissance. Pouvez-vous nous donner un exemple sur base de votre expérience d'un enjeu ressources humaines que vous avez pu observer et qui vient justement impacter les affaires?
Je vous dirais, puis bon, c'est pas original là, ce que je vais vous dire, mais c'est toute la notion de rétention. Oui, on a tous vécu la crise, du manque de main-d'œuvre. Malheureusement, dans certains secteurs aujourd'hui, cette crise n'est plus là, mais elle demeure encore dans certains endroits. Et au-delà de la crise de main-d'œuvre, pour moi, le plus grand enjeu, c'est la rétention. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens ne restent pas parce qu'ils gagnent bien leur vie dans l'organisation. Oui, l'argent est important, on a tous une hypothèque, un loyer à payer, la nourriture à mettre sur la table, mais l'engagement, elle va au-delà de l'argent. Et ça commence la journée 1. Et l'enjeu, il est là. Parce que cette fameuse loyauté, waouh, j'adore mon organisation, elle est très éphémère. On est loyal parce qu'on est fier de ce que notre organisation fait. On est loyal parce que j'aime mon groupe de collègues. On a une certaine activité sociale. Il y a quelque chose qui nous unit. J'aime mon patron parce que je sais que si j'ai un pépin, je peux l'appeler. Parce qu'une fois de temps en temps, il va me dire, waouh, Sophie, super bel job. Fait qu'il y a quelque chose d'humain. Et ça, on le sous-estime. Et lorsqu'on perd un employé, puis pas juste nos hauts potentiels, moi j'ai beaucoup de difficultés avec ce terme, on a 10% de nos employés qui sont des hauts potentiels, puis les autres sont quoi? Et donc, chaque personne, tout le monde est remplaçable, mais ça coûte à l'entreprise sur un plan financier, puis là on va parler business, ça coûte cher de perdre quelqu'un. Et aussi, si on le perd pour les mauvaises, si on perd quelqu'un parce qu'il y a une superbe promotion, puis il peut aller ailleurs, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai perdu là, des employés que j'adorais, puis que j'ai dit, je peux pas te retenir, je peux pas t'offrir cette promotion-là. Vas-y, ça va être bon pour ton développement. Ça, c'est correct. Et puis, on a gardé le lien, puis la crédibilité de mon entreprise n'est pas ternie. Mais si on perd les gens, qu'on n'est pas capable de les mobiliser parce que le patron ne passe pas assez de temps avec ses employés, parce qu'il ne fait pas confiance, parce qu'il se communique bien, on perd des employés pour des mauvaises raisons. Puis je donne toujours l'exemple, journée 1, là, dans le temps, on se rendait au bureau. Journée 1, vous êtes à votre bureau, vous êtes un nouvel employé, vous attendez, il est rendu 11 heures, votre patron ne vous a pas encore dit bonjour. Il est rendu 1 heure, personne ne vous a demandé à venir aller luncher, vous n'avez pas fait le tour de votre départ. C'est plate, c'est plate. Ça commence mal. Et la mobilisation commence cette journée-là. Et ça reste aujourd'hui le plus grand défi. D'autant plus que maintenant, on est derrière un écran. C'est un mode qui va rester. Et donc, ce lien, engager les employés, faire que l'employé est fier. Puis même si demain matin, le compétiteur y offre 2 ou 3 000 $ de plus, ça vaut pas la peine de partir parce que je sais, je l'aime mon équipe. Je sais que je peux compter sur elle. Et ça ne veut pas dire que le patron est toujours obligé de dire oui, mais ça veut dire que quelque part, il y a un lien, puis il y a une fierté de l'entreprise. Elle est définie comme ça, je pense, la loyauté. Et pour moi, c'est le plus grand défi. Le défi, il n'est pas au niveau de la rémunération, il n'est pas au niveau des avantages sociaux. Tout le monde offre la même chose. Et quand j'entends des organisations qui disent, et j'en entends là, qui disent, une fois que la pandémie est finie, là, tout le monde au bureau, 5 jours semaine au bureau, des affaires de télétravail, j'en veux plus. Ma question, est-ce que vous avez parlé à vos employés? Est-ce qu'eux autres, peut-être que 2 jours semaine à la maison, puis pas se taper l'autobus ou pas se taper le trafic, peut-être qu'ils aiment ça, puis peut-être qu'ils sont capables de faire un paquet de travail à la maison qu'ils ne sont pas capables de faire au bureau. Fait que, avez-vous parlé à vos employés? Fait que ça va rester cette notion, le défi de garder, de mobiliser ces employés, pour moi, reste un défi majeur.
Parfait. Ben, merci beaucoup. Et la question suivante nous amène vers votre parcours. Je tenais d'abord à saluer votre engagement auprès de plusieurs associations et organismes communautaires, notamment à titre de présidente du Y des femmes de Montréal. On parle assez peu du rôle des ressources humaines dans les OBNL. Pourtant, ces organisations rencontrent elles aussi des enjeux ressources humaines. Qu'avez-vous appris de ces mandats?
C'est intéressant comme question et bon, d'entrée de jeu, je dois vous dire que j'ai un respect aveugle pour les gens qui travaillent dans ces organisations-là. Vous savez, bon, vous et moi, on finit notre cours, c'est fini, puis on recommence le lendemain matin. Les organisations vont lancer un produit, parfait, le produit est un succès, on a fini, bravo, on célèbre. Le travail dans les OSBL, les organisations sans but lucratif, c'est jamais fini. Demain, on recommence. Puis le besoin, il est encore là, il n'est jamais comblé. Les gens qui travaillent là ne vont pas là pour l'argent, vont là vraiment parce qu'ils foncièrement, ils y croient. Et moi, j'ai, à travers ma présence dans les OSBL, j'ai appris, j'ai ce respect là sans borne. Ce qui est intéressant, c'est que il y a eu beaucoup d'enjeux ressources humaines et les directions de ces organismes-là souvent ne veulent pas, par exemple, je vais vous donner un exemple pour mieux m'exprimer, il n'y a pas de système d'évaluation du rendement parce qu'on n'ose pas évaluer les gens, parce qu'on ne veut pas les perdre, parce que là aussi, c'est difficile d'aller chercher les gens. On ne les attire pas avec l'argent, là, on s'entend là, dans ces organisations-là. Et donc, il y a des enjeux ressources humaines. Aujourd'hui, je vous dirais depuis peut-être 5 ans, les directions générales, les conseils d'administration de ces organismes-là réalisent qu'ils ont des enjeux ressources humaines. Un, il y a une rareté de main-d'œuvre. C'est rendu une business, une organisation à but non lucratif, parce que le Y des femmes est en compétition avec l'hôpital Sainte-Justine, qui est en compétition avec le cancer du sein. On est tous ces organismes-là veulent de l'argent. Puis la tarte, elle n'est pas plus grosse. Il y a X dollars à donner. Donc, moi, je vais aller chercher la meilleure directrice générale, je vais aller chercher la meilleure conseillère en philanthropie. Donc, maintenant, il y a un enjeu de ressources humaines. On va aller chercher les meilleures parce qu'on veut aller chercher le dollar de telle organisation. Et donc, aujourd'hui, on a réalisé qu'il y a des enjeux ressources humaines. On part de loin. Il y a encore des organisations qui n'ont pas d'évaluation du rendement. Où tout le monde a la même augmentation, tout le monde va avoir son 2 % peu importe le rendement de la personne, peu importe l'effort qui a été donné. Alors, il y a encore beaucoup de travail à faire et donc, il est important d'avoir bon, des gens en ressources humaines. Souvent, ces organismes-là n'ont pas nécessairement les budgets pour aller chercher une personne de ressources humaines. Puis c'est certain qu'aller chercher quelqu'un qui va organiser des événements de levée de fonds est plus important. Et donc, je pense que comme bénévolat, pour des gens en ressources humaines, de siéger sur le conseil d'administration, de créer un petit comité ressources humaines est vraiment une valeur ajoutée pour ces organisations-là. Et c'est un bel endroit pour les gens en ressources humaines de faire du bénévolat et bon, de salir un petit peu les mains parce qu'on s'entend, là, on fait partie d'un comité ressources humaines ou d'un conseil d'administration. Oui, il y a de la gouvernance, mais il faut salir les mains aussi. Mais c'est très, très valorisant et je vous dirais, on voit l'impact, on a un impact sur la société. J'ai beaucoup, moi, beaucoup, beaucoup de respect pour ces gens-là.
Merci beaucoup. Et d'ailleurs, plusieurs étudiants vont se poser la question lorsqu'ils obtiendront leur BA en ressources humaines au terme de la session et deviendront eux aussi des conseillers en ressources humaines agréés. Vous avez d'ailleurs un regard sur l'évolution de votre profession en tant que président de la fondation de l'Ordre des CRHA. Quelles sont vos recommandations afin qu'ils réussissent cette transition en tant que futur professionnel des ressources humaines?
Alors, écoutez, je pense pour les gens qui graduent en ressources humaines, bon, c'est certain, la première chose que je vais dire, faites partie de l'ordre. Oui, c'est beaucoup de sous, mais il le faut pour la profession. Un avocat ne pensera jamais ne pas faire partie du barreau. Hein? Bon, alors, c'est une profession. C'est plus comme dans les années 80-90 où on était des superviseurs de personnel. Et bon, c'est une profession à un ordre professionnel, fait partie de votre ordre. Et aussi, c'est une ressource d'information absolument incroyable. La deuxième chose que je dirais, c'est ne négligez pas ce qu'on appelle le networking, là, tout le réseautage. Et ça, je pense que je l'ai dit, j'ai ma fille qui est en ressources humaines, et je lui dis, les gens qui ont travaillé avec moi, les jeunes que j'ai embauchés, faites le réseautage, le networking. C'est important pour la carrière, mais c'est important pour apprendre ce qui se fait ailleurs. Parce qu'on apprend des autres. Ça ne veut pas dire qu'on fait du copier-coller, mais parfois, ce qui se fait ailleurs pour nous donner une idée de ce qu'on peut faire dans notre entreprise. Puis aussi, ça permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans notre milieu. Fait que pour moi, le réseautage, puis c'est des efforts, surtout aujourd'hui, c'est des efforts d'aller luncher, d'aller rencontrer quelqu'un pour un café à 5 heures. C'est des efforts, mais ça vaut la peine. Puis une belle façon de réseauter, parfois aussi, c'est de faire du bénévolat. Bon, alors ça, je vous dirais, c'est la deuxième chose. La troisième, c'est d'être curieux et je l'ai dit, je me répète, mais connaissez votre organisation. N'ayez pas peur d'aller voir le directeur d'usine et dire « moi, j'aimerais ça passer une journée en usine ». D'aller, puis si vous travaillez dans un endroit, un service à la clientèle de Bell Canada, Vidéotron, passez une journée assis avec le téléphone pour entendre ce que les gens disent. Connaissez votre organisation. Parce qu'un de nos rôles, c'est, oui, de représenter la direction et l'organisation, mais c'est d'être capable d'être la voix des employés. Puis être la voix des employés, ça ne veut pas dire on va dire oui, mais c'est être capable de dire à la direction, moi, je pense que le programme que tu vas mettre en place, ça ne marchera pas, là. Les employés ne vont pas bien le recevoir. Pour dire ça, là, il faut que j'aie de la crédibilité auprès des employés, il faut que je les connaisse, il faut que je connaisse mon organisation. Je dirais ça. Donc, d'être curieux, d'écouter. D'écouter, c'est certain de bien communiquer, mais d'écouter. Et on a tous, puis moi la première, on pense tous qu'on a la réponse. Enfin, je sais ce qu'il faut faire. Il faut écouter. Et avoir du courage. Puis je vous dirais, c'est probablement ce qui est le plus difficile d'avoir du courage. Parce que c'est dur des fois de dire, moi je pense qu'on devrait faire tel-ci. Moi je pense que le problème, il est là. Ou dire, je pense que ton style de gestion, là, ça ne fonctionne pas, puis si tu continues comme ça, tu vas perdre 50% des gens. Et c'est dur de dire ça, parce qu'on sait qu'on va dire, hey, wow, on va se faire repousser, hein? Mais il faut avoir du courage. Ça dépend de la façon de dire les choses. J'ai toujours là, une belle façon de dire quelque chose qui est peut-être une critique négative, c'est de la formuler en question. De poser des questions, c'est une belle façon de commencer une discussion puis de passer un message qui est peut-être difficile. Mais il faut avoir ce courage-là parce que c'est notre rôle. Notre rôle n'est pas seulement, malheureusement, là, de mettre en place des bien beaux programmes. Notre rôle aussi est parfois un rôle difficile où il faut dire à notre président, là, tes employés, les employés ne sont pas mobilisés. Là. On a un haut taux de roulement dans le service des finances parce qu'il y a un style de gestion, une culture là, qui n'est pas ce qu'on veut. Et c'est dur de dire ça, puis on ne se fait pas d'amis, mais encore une fois, c'est notre rôle. Puis bon, j'ai eu à le faire, j'ai eu des moments super difficiles où je me dis dans quoi je me suis embarquée, mais à la fin, puis ça peut prendre du temps, j'ai eu raison de le faire. Mais c'est dur. Alors je vous dirais, c'est ça, mais c'est un rôle, vous savez... puis c'est certain que je suis un petit peu plus bien maintenant, mais je réalise, on a en ressources humaines de l'impact sur les organisations. On a un impact sur les employés. C'est surprenant ce qu'on peut dire, puis nous, on s'en va chez nous le soir, puis on a fini, puis on a dit quelque chose. Les employés le retiennent. Puis ils vont revenir une semaine après. Puis ils vont dire, oh, t'as dit ça l'autre fois, là. Puis là, je lui dis, wow, ils m'ont entendu. Fait qu'on a un impact important. Puis plus on prend d'expérience, plus on réalise l'impact que l'on a. Mais on a un impact sur la direction d'entreprise, on a un impact sur les gens aussi. Mais il faut avoir du courage, il faut écouter, il faut être curieux et puis il faut encourager notre réseautage. Je ne sais pas si ça répond à votre question, c'est ce que vous recherchez. Oui, le bac est important puis parce qu'on apprend toute la théorie. Puis c'est important pour comprendre certaines choses, mais je pense être sur le plancher puis comprendre notre réalité, c'est un must, un non négociable.
Merci beaucoup, Sophie Fortin.
Merci à vous. Ça m'a fait plaisir et c'est une belle profession. Qui a des défis qui sont d'actualité. Il y aura toujours de nouveaux défis.